Il est 6h. On est le mercredi 10 août. Bon réveil à tous et belles vacances si vous êtes en vacances. Et bon travail si vous y allez.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Et pour le journal de 6h, c'est Léa Journeau qu'on retrouve. Bonjour Léa.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Le défi que s'est lancé Cindy Taramarca, 33 ans, va de l'avant, à savoir rallier à pied sur quelques 200 km la garde sans brancher en Valais, au Creux du Vent, dans le canton de Neuchâtel. Un périple entamé le 1er août dernier. La Valaisanne souffre depuis sa naissance d'une infirmité moteur cérébrale qui affecte sa manière de s'exprimer et de se déplacer. Hier, la marcheuse, qui récolte à travers son projet de l'argent pour venir en aide à des enfants malgaches, a effectué le trajet Eviona-Saint-Maurice et c'est au refuge du Bois Noir qu'Yves Terrani l'a rencontré. La bagnarde était accompagnée d'Alexandra Chamorel et Stéphane Simon, deux personnes qu'elle ne connaissait pas. Et Stéphane Simon nous précise justement ce qui l'a poussé à se joindre à cette aventure.
J'ai rencontré Cindy par l'intermédiaire d'une amie via les réseaux sociaux et elle a présenté son trek qu'elle voulait faire et comme quelques années en arrière j'ai eu un accident cardiovasculaire qui fait en sorte que je ne peux plus faire de sport dont de la randonnée qui était ma passion. Ça m'a interpellé vu l'handicap de la suivre et puis de soutenir son projet de marcher avec elle.
Alors aujourd'hui on vous trouve entre Eviona et Saint-Maurice, ça se passe comment à côté de Cindy?
C'est top, on marche tranquille, on profite de la nature, on profite des petits coins d'eau pour se reposer, on discute, on rigole beaucoup, surtout, et voilà, c'est super sympa.
On s'en doute, le rythme n'est pas élevé.
Je pense qu'il n'y a pas de rythme à avoir, je pense qu'on doit juste profiter d'avancer, profiter des choses qui sont autour de nous, et je pense que plus on va lentement, plus on découvre ce qui se passe autour de nous.
On vous dira encore que ceux qui souhaitent se joindre à Cindy Taramarca pour un bout de chemin, lui fournir du matériel ou encore mettre quelques sous en faveur d'enfants malgaches, ils peuvent toujours le faire. Toutes les informations sur la page Andy Trekking sur Facebook. Il y a 30 ans, les fromagers de Letiva fixaient les critères de fabrication du célèbre fromage à pâte dure. En effet, en 1992, la coopérative des producteurs basée à Letiva décidait d'anticiper la chute du prix du lait engendrée par la libéralisation du marché. Ils ont édicté un règlement dans le but de pérenniser la qualité de ces fromages d'alpage. Jacques Anchaud, président d'honneur de la coopérative des producteurs des fromages d'alpage de Letiva.
On a inscrit tous les critères qui sont devenus ensuite le cahier des charges au moment où on a déposé la demande d'enregistrement à la Confédération. Ce qui était important, c'était de fixer des critères qui influencent la qualité du fromage. Letiva est un fromage d'alpage, ça ne se fabrique que durant l'été entre le 10 mai et le 10 octobre. Ensuite, affouragement exclusivement avec des herbages naturels. Ensuite, la fabrication sur chaque alpage. Pour éviter des problèmes de qualité en transportant du lait l'été par forte chaleur.
Ce règlement est à la base de l'AOP, à laquelle Letiva sera le premier inscrit en Suisse en 1999. Aujourd'hui, une septantaine de producteurs fabriquent plus de 20 000 meules par année. Un sujet préparé par Guillaume Abbé. De nombreux Valaisans seraient touchés par le diabète sans même le savoir. Pour remédier à cela, Action Diabète invite la population à s'informer et se faire dépister. Dès le 1er septembre prochain, l'association sera présente sur le marché de Martigny avant de poursuivre son action sur les marchés de Sierre, Montais, Sion, Viège ou encore Brigue. Un changement d'imposition voulu par le département fédéral des finances va-t-il à l'encontre des règles de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique? La question se pose avec le projet d'imposer les armateurs en haute mer, non plus sur leurs bénéfices, mais sur leur capacité de transport, alors que l'OCDE demande que les pays appliquent une taxe de minimum 15% aux très riches multinationales. Le département fédéral précise que les règles de l'OCDE en matière d'imposition minimale prévoient une exception pour les bénéfices du transport maritime international et cela ne satisfait pas le conseiller national socialiste vaudois Samuel Bendaon.
On a décidé de mettre en place une logique de taxation d'au moins 15% du bénéfice, c'est quand même pas énorme, mais qui permet quand même d'avoir une certaine équité. Et puis évidemment, si vous changez complètement le système fiscal, ben, ça rend caduque cette réforme pour une branche spécifique. Mais franchement, il n'y a aucune raison de dire on va favoriser la branche des gros transporteurs maritimes par rapport à toutes les autres branches. C'est pas une branche qui est plus vertueuse que n'importe quelle autre. Et en plus, lorsqu'ils font d'énormes profits, c'est normal que comme les autres entreprises, ils soient taxés. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est déjà des taxations qui sont très basses.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Frédéric Nejat-Toulami. Samuel Bendaon et ses collègues de la Commission de l'économie du Conseil national étudieront ce projet de loi lundi. À l'étranger, le Beluga, égaré depuis une semaine dans la Seine, a été sorti cette nuit de l'écluse dans laquelle il se trouvait en France, a constaté l'AFP. Il s'agit de la première étape de l'opération hors norme pour tenter de remettre le cétacé en mer. Ainsi, vers 4 heures, après 6 heures d'efforts, la baleine blanche de près de 800 kilos a été soulevée dans un filet tracté par une grue et déposée sur une barge, où elle a été immédiatement prise en charge par une dizaine de vétérinaires. Son état de santé a été jugé alarmant. Elle sera ensuite placée dans un camion réfrigéré direction le Calvados pour observer justement son état de santé et la rapatrier en pleine mer. Les États-Unis ont annoncé hier qu'ils allaient consacrer 89 millions de dollars pour aider l'Ukraine à détruire les mines antipersonnelles posées, selon eux, volontairement par les soldats russes dans des zones habitées du nord du pays avant de s'en retirer en mars. Le gouvernement ukrainien a déjà désamorcé 160 000 explosifs, mais un responsable du département d'État qui finance ce programme estime que 5 millions de personnes vivent actuellement dans des zones infestées d'explosifs et de mines antipersonnelles. Deux mineurs piégés sous terre ont pu, depuis 10 jours en République dominicaine, ont pu regagner la surface hier après un sauvetage, a annoncé leur compagnie. Les deux mineurs, un dominicain et un colombien, avaient été coupés de tout contact avec la surface le 31 juillet dernier après un éboulement dans une mine située à Cerro de Maimon, à environ 80 km au nord de Saint-Domingue. Plus de 70 experts et une quarantaine de techniciens venus de tout le pays ont participé au sauvetage. On passe au sport. En football, Lugano ne jouera pas son match retour des qualifications de la Conference League sur le terrain de l'Apol Be'er Sheva. En raison de la situation politique tendue en Israël, l'UEFA a demandé à ce que cette rencontre soit disputée ailleurs. D'abord réticent, le club israélien a finalement accédé à cette requête. Le duel aura ainsi lieu demain dans le stade de Netanya, une ville côtière située à 30 km au nord de Tel Aviv. D'un point de vue sportif, les Luganais avaient perdu le match aller 2-0. Et puis en tennis, de la retraite approche pour Serena Williams. Âgée de 40 ans, la star américaine a annoncé dans une interview accordée au magazine Vogue que le compte à rebours était enclenché. La joueuse aux 23 titres du Grand Chelem explique qu'elle entend se concentrer sur son rôle de maman et sur ses objectifs spirituels.
Merci beaucoup Léa, on vous retrouve tout à l'heure à 7h.